Nous reprenons la lecture du crime d'Orcival d'Émile Gaborio. Nous nous arrêterons vers la fin du 11e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel. À ce transport furieux succède chez le comte un irrésistible anéantissement. Les circonstances diverses que je vous décris se remarquent d'ailleurs dans presque tous les grands crimes. Toujours, l'assassin, après le meurtre, est saisi d'une haine épouvantable et inexpliquée contre sa victime, et souvent il s'acharne après le cadavre. Puis vient qu'une période d'affaissement si grand, de torpeur si invincible qu'on a vu des misérables s'endormir littéralement dans le sang, qu'on les surprenait endormis, qu'on avait toutes les peines du monde à les réveiller. Lorsqu'il a eu affreusement mutilé le corps de sa femme, M. de Trémorel a dû se laisser tomber dans un des fauteuils de la chambre. Et, en effet, les lambeaux de l'étoffe d'un des sièges ont gardé certains plis qui indiquent bien qu'on s'est assis dessus. Quelles sont alors les réflexions du comte? Il songe aux longues heures envolées, aux heures si courtes qui lui restent. Il n'a rien trouvé. Il songe que c'est à peine si, avant le jour, il aura le temps d'exécuter les mesures dont l'ensemble doit dérouter l'instruction et assurer son impunité en faisant croire à sa mort. Il faut fuir. Bien vite. Fuir sans ce papier maudit. Il rassemble ses forces. Il se lève. Et savez-vous ce qu'il fait ? Il saisit une paire de ciseaux et coupe sa longue barbe si soignée. « Ah ! » interrompit le père Planta. « Voilà donc pourquoi vous regardiez tant le portrait. » Monsieur Lecoq mettait trop d'attention à suivre le fil de ses déductions pour relever l'interruption. « Il est, poursuivait-il, de ces détails vulgaires que leur trivialité précisément rend terrible lorsqu'elles sont entourées de certaines circonstances. » Vous représentez-vous le comte de Trémorel, pâle, couvert de sang de sa femme, debout devant sa glace et se rasant, faisant mousser le savon sur sa figure, dans cette chambre bouleversée, lorsqu'à trois pas de lui, à terre, gît le cadavre chaud, encore palpitant. Se regarder, se voir dans une glace après un meurtre est, entendez-moi bien, un acte d'épouvantable énergie dont peu de criminels sont capables. Du reste, les mains du comte tremblaient si fort qu'à peine il pouvait tenir le rasoir, et sa figure doit être sillonnée de balafres. « Quoi ? » s'écria le docteur Gendron. « Vous supposez que le comte a perdu son temps à se raser ?»« J'en suis positivement sûr, » répondit M. Lecoq. « Positivement, » ajouta-t-il en appuyant sur toutes les syllabes. « Une serviette sur laquelle j'ai reconnu une de ses marques, une seule, que laisse le rasoir quand on l'essuie, m'a mis sur la trace de ce détail. J'ai cherché et j'ai trouvé une boîte de rasoir. L'un d'eux avait servi depuis bien peu de temps, car il était encore humide. J'ai serré soigneusement la serviette et la boîte. Et si ces preuves ne suffisent pas pour appuyer mon affirmation, je ferai venir de Paris deux de mes hommes et ils sauront bien découvrir quelque part dans le château ou dans le jardin et la barbe de M. de Trémorel, et le linge sur lequel il a essuyé son rasoir. J'ai examiné soigneusement le savon resté sur la toilette, et tout me fait supposer que le comte ne s'est pas servi de blaireau. Quant à l'idée qui vous surprend, monsieur le docteur, Elle me paraît à moi naturelle. Je dirais plus, elle est la conséquence nécessaire du plan adopté. Monsieur de Trémorel a toujours porté toute sa barbe. Il la coupe et sa physionomie est à ce point changée que si, dans sa fuite, il rencontre quelqu'un, on ne le reconnaîtra pas. Le docteur Gendron dut être convaincu car il eut un geste d'assentiment et murmura « C'est clair, c'est évident ». Une fois défiguré, continua l'agent de la sûreté, le comte s'est mis en toute hâte à réunir les éléments de son plan, à disposer les apparences destinées à nous égarer, à faire croire qu'en même temps que sa femme, il avait été assassiné par une bande de brigands. Il est allé chercher un vêtement de Guespin, il l'a déchiré à la poche et en a placé un fragment dans la main de la comtesse. Prenant alors le cadavre dans ses bras, en travers, il l'a descendu. Les blessures saignaient affreusement, de là les nombreuses taches constatées à toutes les marches. Arrivé en bas de l'escalier, il est obligé de poser le cadavre à terre pour aller ouvrir la porte du jardin. Cette manœuvre explique parfaitement la tache de sang très large du vestibule. La porte ouverte, le comte revient prendre le cadavre et le tient entre ses bras jusque sur le bord de la pelouse. Là, il cesse de le porter. Il le traîne en le soutenant par les épaules, marchant à reculons, s'imaginant ainsi préparer des empreintes qu'ils feront supposer que son propre cadavre à lui a été traîné et jeté à la Seine. Seulement, le misérable a oublié deux choses qui nous le livrent. Il n'a pas réfléchi que les jupons de la comtesse, en traînant sur l'herbe, la foulant et la brisant sur un large espace, dévoileraient la ruse. Il n'a pas songé que son pied élégant et cambré, chaussé de bottes fines à talons très hauts, se moulerait dans la terre humide de la pelouse, laissant contre lui une preuve plus éclatante que le jour. Le père Plantat se leva brusquement. « Ah ! Interrompit-il, vous ne m'avez rien dit de cette circonstance ?» Monsieur Lecoq eut un joli geste de suffisance, ni de plusieurs autres encore. Mais à ce moment, j'ignorais, son regard chercha celui du père Plantat, j'ignorais absolument beaucoup de choses que je sais maintenant. Et comme j'avais quelques raisons de supposer monsieur le juge de paix bien mieux instruit que moi, je n'étais pas fâché de me venger un peu d'une discrétion pour moi incompréhensible. « Et vous êtes vengé, » fit en souriant le docteur Gendron. De l'autre côté du gazon, reprit M. Lecoq, le comte a de nouveau enlevé le cadavre. Mais alors, oubliant les effets de l'eau lorsqu'elle jaillit, ou, peut-être, qui sait, craignant de se mouiller, au lieu de pousser violemment le corps dans l'eau, il l'y dépose doucement avec mille précautions. Ce n'est pas tout. Il veut qu'on croie à une lutte terrible entre la comtesse et les assassins. Que fait-il ? Du bout de son pied, il fouille et raie le sable de l'allée. Et il croit que la police s'y trompera. « Oui, » murmura le père Plantat, « c'est exact, c'est vrai, j'ai vu. » Débarrassé du cadavre, le comte regagne la maison. L'heure presse, mais il veut encore chercher le titre maudit. Il se dépêche donc de prendre les dernières mesures qui assureront, croit-il, la réussite de ses projets. Il prend ses pantoufles et un foulard qu'il tache de sang. Il jette sur le gazon son foulard et une de ses pantoufles. Il lance l'autre au milieu de la Seine. Sa précipitation nous explique les défectuosités et l'insuccès de ses manœuvres. Il se presse, il commet bévue sur bévue. Les bouteilles qu'il place sur la table sont des bouteilles vides. Il ne pense pas que son valet de chambre le dira. Il croit verser du vin dans 5 verres. Il y verse du vinaigre, qui prouvera que personne n'a bu. Il remonte, il avance l'aiguille de la pendule, mais il l'avance trop, et il oublie d'ailleurs de mettre la sonnerie et les aiguilles d'accord. Il défait le lit, mais le défait mal, et encore, il ne voit pas qu'il est absolument impossible de concilier ces 3 choses. Le lit défait, la pendule marquant 3h20, la comtesse habillée comme au milieu du jour. Autant qu'il peut, il augmente le désordre. Il arrache le ciel du lit, il trempe un linge dans le sang et en macule les rideaux et les meubles. Enfin, il marque la porte d'entrée de cette main sanglante dont l'empreinte est trop nette, trop distincte, trop arrêtée pour n'être pas volontaire. Est-il jusqu'ici, messieurs, je vous le demande, une circonstance, un détail, une particularité du crime qui n'explique pas la culpabilité de monsieur de Trémorel ? Il y a la hache, répondit le père Plantat, la hache retrouvée au second étage et dont la position vous a semblé si extraordinaire.
J'y arrive, monsieur le juge de paix, répondit monsieur Lecoq.
Il est un point de cette affaire ténébreuse sur lequel, grâce à vous, nous sommes parfaitement fixés. Nous savons que madame de Trémorel possédait et cachait au-dessus de son mari un papier, un acte, une lettre, dont celui-ci convoitait la possession et qu'elle refusait absolument, en dépit de ses prières, de lui donner. Vous nous avez affirmé que le désir, la nécessité peut-être, de s'emparer de ce papier a contribué puissamment à armer la main du comte. Nous ne serons donc pas téméraires en supposant, à ce titre, une importance non seulement extraordinaire, mais encore tout à fait exceptionnelle. Il faut croire, à plus forte raison qu'il est, de sa nature extrêmement compromettant. Mais qui compromet-il ? Le comte et la comtesse ensemble ? Ou seulement le comte ? À cet égard, j'en suis réduit aux conjectures. Ce qui est acquis, c'est que ce titre est une menace, exécutable sur le champ, suspendue sur la tête de celui ou de ceux qu'elle concerne. Ce qui est sûr, c'est que madame de Trémorel considérait cet écrit soit comme une garantie, soit comme une arme terrible mettant son mari à sa discrétion. Ce qui est un fait, c'est que, pour se délivrer de cette menace perpétuelle qui troublait sa vie, monsieur de Trémorel a tué sa femme. Si logique était la déduction, ces derniers termes faisaient si bien éclater l'évidence que le docteur et le père Plantat ne purent retenir une exclamation approbative, ils s'écrièrent ensemble « Très bien !» Maintenant, reprit monsieur Lecoq, des divers éléments qui ont servi à former cette conviction, il faut conclure que le contenu de cette lettre est tel que, retrouvée, elle enlèverait nos dernières hésitations. Elle doit expliquer le crime et rendre inutiles les précautions de l'assassin. Le comte devait donc faire tout au monde, tenter l'impossible, pour ne pas laisser derrière lui ce danger. C'est pourquoi les préparatifs qui, à son sens, devaient égarer la justice terminée, malgré le sentiment d'un péril imminent, malgré l'heure qui passe, malgré le jour qui vient, monsieur de Trémorel, au lieu de fuir, recommence avec plus d'acharnement que jamais ses inutiles perquisitions. De nouveau, il revoit les meubles à l'usage de sa femme, les tiroirs, les livres, les papiers, en vain. Alors, il se décide à explorer le second étage, et toujours armé de sa hache, il monte. Déjà, il a attaqué un meuble, lorsque dans le jardin, un cri retentit. Il court à la fenêtre, que voit-il ? Philippe et le vieux Laripaille sont debout au bord de l'eau, sous les saules du parc, près du cadavre. Comprenez-vous l'épouvantable effroi de l'assassin ? Désormais, plus une seconde à perdre. Il n'a que trop attendu déjà. Le danger est pressant, terrible. Il fait jour. Le crime est découvert. On va venir. Il se voit perdu, sans ressources. Il faut fuir, fuir à l'instant, au risque d'être vu, d'être rencontré, d'être arrêté. Violemment, il lance sa hache qui entaille le parquet. Il descend, il glisse dans ses poches les liasses de billets de banque, il s'empare de la veste déchirée et sanglante de Guespin qu'il lancera dans la rivière, du haut du pont, et il se sauve par le jardin. Oubliant toute prudence, éperdu hors de lui-même, couvert de sang, il court, il franchit la douve, et c'est lui que le vieux Laripaille aperçoit, gagnant les bois de Mauprévoir, où il compte réparer le désordre de ses vêtements. Il est sauvé pour le moment, mais il laisse derrière lui cette lettre qui est, croyez-le,
une formidable accusation qui éclairera la justice, qui dira bien haut et sa scélératesse et la perfidie de ses manœuvres. Car il ne l'a pas retrouvée, cette lettre, mais nous, nous la retrouverons, nous. Elle nous est nécessaire pour ébranler M. Domini. Il nous la faut pour changer nos doutes en certitude.
Un silence assez long suivit la déclaration de l'agent de la sûreté. Peut-être ses auditeurs cherchaient-ils des objections. Enfin, le docteur Gendron prit la parole. « Dans tout cela, dit-il, je n'aperçois pas le rôle de Gaspard. »«
Je ne le vois pas non plus, monsieur, » répondit monsieur Lecoq. « Et ici, je dois vous confesser le fort et le faible de mon système d'enquête. Avec cette méthode qui consiste à reconstituer le crime avant de s'occuper du criminel, je ne puis ni me tromper, ni avoir raison à demi. Ou toutes mes déductions sont justes, ou il n'en est pas une seule qui le soit. C'est tout ou rien. Si je suis dans le vrai, Gaspard n'a pas trempé dans le crime. Au moins directement, puisqu'il n'est pas une circonstance qui fasse soupçonner un concours étranger. Si au contraire je m'abuse, monsieur Lecoq s'interrompit. On me dit qu'il prêtait l'oreille à quelques bruits insolites venus du jardin. « Mais je ne m'abuse pas, reprit-il, j'ai contre le comte une autre charge encore, dont je ne vous ai pas parlé, et qui me paraît bien concluante. »« Oh !» fit le docteur, « à quoi bon désormais ?»« Deux sûretés valent mieux qu'une, monsieur, et moi je doute toujours. » »« Donc, laissé seul un moment, ce tantôt, par monsieur le juge de paix, j'ai demandé à François, le valet de chambre, s'il savait exactement le compte des chaussures de son maître. Il m'a répondu que oui, et m'a conduit dans le cabinet où on serre les chaussures. Il manquait une paire de bottes à tige de cuir de Russie vert, mise le matin même. François en est sûr, par le comte de Trémorel. Ces bottes, je les ai cherchées avec un soin minutieux, je ne les ai pas aperçues. Enfin, la cravate que portait le comte dans la journée du 8, qui est bleue avec des raies blanches, a disparu également. « Voilà, s'écria le père Plantat, voilà l'indiscutable preuve de vos suppositions au sujet des pantoufles et du foulard. »«
Il me paraît en effet, répondit l'agent de la sûreté, que les faits sont assez rétablis pour nous permettre d'aller de l'avant. Recherchons maintenant les événements qu'ont dû déterminer. » Depuis un moment, déjà, monsieur Lecoq, tout en parlant, observait sournoisement le dehors. Tout à coup, sans un mot, avec cette foudroyante hardiesse et cette précision des dents du chat qui bondit sur la souris, qu'il guette, il s'élança sur l'appui de la fenêtre ouverte et de là dans le jardin. Presque simultanément, on entendit le bruit de la chute,
un cri étouffé, un juron, puis les trépignements d'une lutte. Le docteur et le père Plantat s'étaient précipités à la fenêtre. Le jour commençait à poindre. Les arbres frissonnaient au vent frais du matin. Les objets apparaissaient vaguement distincts, sans formes arrêtées, au travers de ce brouillard blanc qui plane les nuits d'été sur la vallée de la Seine. Au milieu du gazon, devant les fenêtres de la bibliothèque, le médecin et le juge de paix entrevoyaient deux hommes, deux ombres plutôt, qui se démenaient, agitant furieusement les bras. Par instant, à intervalles très rapprochés, ils entendaient le bruit mou et clapoteux d'un poing fermé qui s'abat en plein sur la chair vive. Bientôt, les deux ombres n'en formèrent qu'une, puis elles se séparèrent pour se rejoindre de nouveau. Une des deux tomba, se releva aussitôt et retomba encore. « Ne vous dérangez pas, messieurs, » criait la voix de M. Lecoq. « Je tiens le gredin. » L'ombre restée debout, qui devait être celle de l'agent de la sûreté, s'inclina, et le combat qui semblait fini recommença. L'ombre étendue à terre se défendait avec l'énergie si dangereuse du désespoir. Son torse, au milieu de la pelouse, formait comme une grande tache brune, et ses jambes, lançant des coups de pied, se tendaient et se détendaient convulsivement. Il y eut un moment de confusion tel que M. Gendron et le père Plantat cessèrent de distinguer laquelle des deux ombres était celle de l'agent de la sûreté. Elle s'était relevée et luttait. Soudain, une exclamation de douleur retentit, accompagnée d'un juron. « Ah, canaille !» Et tout aussitôt, un cri déchirant, traversa l'espace et la voix railleuse de l'homme de la préfecture dit « Le voilà, je l'ai décidé à venir nous présenter ses civilités, éclairez-nous un peu. » Le médecin et le juge de paix se précipitèrent ensemble vers la lampe. De leur empressement, un retard résulta. Et au moment où le docteur Gendron, s'emparant du luminaire, l'élevait à sa hauteur, la porte du salon s'ouvrit, brutalement poussée. « Je vous présente, messieurs, » disait l'agent de la sûreté, « monsieur Robelot, rebouteux Orcival, herboriste par prudence et empoisonneur par vocation. » Telle était la stupéfaction du père Plantat de M. Gendron que ni l'un ni l'autre ne purent répondre. C'était bien le rebouteux, en effet, remuant dans le vide ses mâchoires désarticulées. Son adversaire l'avait jeté bas au moyen de ce terrible coup de genou qui est la suprême défense et l'ultime ratio des pires rôdeurs de barrières parisiens. Mais ce n'était pas la présence, presque inexplicable pourtant, de Robelot qui surprenait si fort le juge et son ami. Leur stupeur venait de l'apparence de cet autre homme qui, de sa poigne d'acier aussi rigide que des menottes, maintenait l'ancien garçon de laboratoire du docteur et le poussait en avant. Il avait incontestablement la voix de M. Lecoq, son costume, sa cravate à nœuds, prétentieux, sa chaîne de montre en crin jaune. Et cependant, ce n'était plus M. Lecoq. Sorti par la fenêtre blond avec des favoris bien ratissés, il rentrait par la porte, brun et le visage glabre. Celui qui était sorti était un homme mûr, à physionomie capricieuse, prenant à volonté l'air idiot ou l'air intelligent. Celui qui rentrait était un beau garçon de 35 ans, à l'œil fier, à la lèvre frémissante, de magnifiques cheveux noirs bouclés faisaient vigoureusement ressortir la pâleur mate de son teint et le ferme dessin de sa tête énergique. Il avait au cou, un peu au-dessous du menton, une blessure qui saignait. « Monsieur Lecoq !» s'exclama le juge de paix, recouvrant enfin la parole. « Lui-même, » répondit l'agent de la sûreté. « Et pour cette fois seulement, le vrai. » Et s'adressant au rebouteux tout en lui donnant un rude coup d'épaule. « Avance-toi » dit-il. Le rebouteux tomba à la renverse sur un fauteuil, mais l'homme de la police continua à le tenir. « Oui, » poursuivait-il, « ce gredin m'a arraché mes ornements blonds. C'est grâce à lui et bien malgré moi que je vous apparais au naturel, avec la tête qui m'a été donnée par le Créateur et qui est bien à moi. » Il eut un geste insouciant et ajouta, moitié fâché, moitié souriant. « Je suis le vrai Lecoq, et sans mentir, il n'y a pas plus de 3 personnes qui le connaissent après vous, messieurs. 2 amis sûrs et une amie qui l'est infiniment moins, celle dont je parlais tout à l'heure. » Les yeux du père Plantat et de M. Gendron interrogeaient avec tant d'insistance que l'agent de la sûreté continua. « Que voulez-vous? Tout n'est pas rose dans le métier. On court à échenier la société, des dangers qui devraient bien nous concilier l'estime de nos contemporains à défaut de leurs affections. Tel que vous me voyez, je suis condamné à mort par 7 malfaiteurs, les plus dangereux qui soient en France. Je les ai fait prendre et ils ont juré. Et ce sont des hommes de parole que je ne mourrai que de leurs mains. Où sont donc-ils ces misérables? 4 sont à Cayenne, 1 est à Brest, j'ai de leurs nouvelles. Mais les 2 autres, j'ai perdu leur piste. Qui sait si l'un d'eux ne m'a pas suivi jusqu'ici, qui me dit que demain, au détour d'un chemin creux, je ne recevrai pas 6 pouces de fer dans le ventre. Il eut un sourire mélancolique. Et pas de récompense, poursuivit-il, pour les périls que nous bravons. Que je tombe demain, on ramassera mon cadavre, on le portera à l'un des domiciles officiels qu'on me connaît, et tout sera dit. Le ton de l'homme de la police était devenu amer. La sourde irritation de sa voix trahissait bien des rancunes. Heureusement, reprit-il, mes précautions sont prises. Tant que je suis dans l'exercice de mes fonctions, je me défie. Et quand je suis sur mes gardes, je ne crains personne. Mais il est des jours où on est las de craindre, où on veut pouvoir tourner court une rue sans redouter le poignard. Ces jours-là, je redeviens moi-même. Je me débarbouille, je jette mon masque. Ma personnalité se dégage des 1000 déguisements que j'endosse tour à tour. Voici 15 ans que je suis à la préfecture. Nul n'y connaît mon visage vrai, ni la couleur de mes cheveux. Maître Rebelot, mal à l'aise sur son fauteuil, essaya un mouvement. « Ah, ne fais pas le méchant, lui dit Monsieur Lecoq, changeant subitement de ton. Il t'en cuirait. Lève-toi plutôt et dis-nous ce que tu faisais dans ce jardin. » « Mais vous êtes blessé, s'écria le juge de paix, remarquant le filet de sang qui glissait le long de la chemise de l'agent de la sûreté. « Oh, ce n'est rien, monsieur, une égratignure. Ce drôle avait un grand coutelas fort pointu dont il a voulu jouer. » Le juge de paix voulut absolument examiner cette blessure. Et c'est seulement, quand le docteur eut reconnu sa parfaite innocuité, qu'il s'occupa du rebouteux. « Voyons, maître Rebelot, demanda-t-il, que venez-vous faire chez moi ?» Le misérable ne répondit pas. « Prenez garde, insista le père Planta. Votre silence nous confirmera dans l'idée que vous êtes venu avec les pires desseins. » Mais c'est en vain que le père Planta épuisa son éloquence persuasive. Le rebouteux se renfermait dans une farouche et silencieuse immobilité. Alors M. Gendron se décida à prendre la parole, espérant, non sans raison, qu'il aurait quelque influence sur son ancien domestique. « Réponds, interrogea-t-il, que voulais-tu ? » Le rebouteux fit un effort et ses yeux dénoncèrent une vive souffrance. Parler avec sa mâchoire démise était douloureux. « Je venais pour voler, répondit-il, je l'avoue. Voler ? Quoi ? Je ne sais pas. On n'escalade pas un mur, on ne risque pas la prison sans une intention bien arrêtée d'avance. Eh bien donc, je voulais... » Il s'arrêta. « Quoi ? Parle ! Prendre des fleurs rares dans la serre. Avec ton coutelas, n'est-ce pas ? » fit en ricanant monsieur Lecoq. Le rebouteux lui lançant un regard terrible, il continua. « Ne me regarde pas ainsi, tu ne me fais pas peur. Puis toi qui es fin, ne nous dis donc pas de niaiseries. Si tu nous crois beaucoup plus bêtes que toi, tu te trompes, je t'en préviens. » « Je voulais prendre les pots, balbutia maître Rebelot, pour les revendre. « Allons donc, fit l'agent de la sûreté en haussant les épaules. Ne répète donc pas des inepties. Toi, un homme qui achète et paye content des terres excellentes, voler des pots de bruyère à d'autres. Ce soir, mon garçon, on t'a retourné comme un vieux gant. Bien malgré toi, tu as donné la volée à un secret qui te tourmente diablement, et tu venais ici pour tâcher de le reprendre. En y réfléchissant, tu t'es dit, toi, rusé, que sans doute M. Planta n'avait encore parlé à qui que ce soit, et tu arrivais avec le projet ingénieux de l'empêcher de parler, désormais à âme qui vive. Le rebouteux voulut protester. « Tais-toi donc, lui dit M. Lecoq, et ton coutelas ? » Pendant cet interrogatoire sommaire du rebouteux, le père Planta réfléchissait. « Peut-être, murmura-t-il, peut-être ai-je parlé trop tôt. »« Pourquoi donc ? » répondit l'agent de la sûreté. « Je cherchais une preuve palpable à donner à M. Domini. Nous lui servirons ce joli garçon. Et s'il n'est pas content, c'est qu'il est trop difficile. »
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.